Fidèles auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalango, bienvenue dans ce nouveau forum Espace Femmes, un rendez-vous hebdomadaire dédié aux femmes qui traitent des différentes questions dans tous les domaines sociaux et culturels. Femmes et élections, place de la femme dans les conseils communaux et régionaux de la ville de Niamey, c'est le thème du forum de ce soir. Lors des élections locales qui se sont déroulées au Niger en décembre 2020, les femmes se sont mobilisées plutôt en tant qu'électrices et candidates. Elles représentent 57% des inscrits sur le fichier électoral et 35% des candidates. Au sorti de ce scrutin, une partie des candidates se sont distinguées dans leur commune et sont élues conseillères ou mairesse. Les nouvelles autorités municipales et régionales du Niger, c'est pour rappel, ont été officiellement installées le 26 avril 2021 à Niamey. Une cérémonie plutôt qui a marqué le processus d'installation des organes exécutifs délibérants des communes, des villes et des régions. Les femmes élues de tous bords confondus sont faiblement représentées dans les municipalités. Cependant, cette année à Niamey, on note un taux de 25% de femmes pour les conseillers régionaux et 27% pour les conseillers municipaux. Comment expliquer cette représentativité des femmes dans les conseils communaux et régionaux de Niamey? Sur quelle base ces élus locaux ont-elles été choisis au sein de leur parti? Quels pourraient être les avantages d'avoir une femme dans les organes exécutifs délibérants? En tant que femme, quels sont les défis à relever au poste de mairesse ou conseillère? Pour répondre à toutes ces interrogations et bien d'autres, nous avons dans ce studio Madame Fouta Mariam Tiamogo, mairesse de la commune 4 de Niamey. Bonsoir Madame.
Bonsoir.
Et nous avons aussi Madame Haroun Fatoumata, membre de l'Observatoire des élections. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Je suis Samira Rouafi pour la modération de cette émission. Studio Kalango. Nous commençons par vous, Madame la représentante de l'Observatoire des élections. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de la participation des femmes dans le processus électoral, particulièrement aux élections municipales et régionales?
Merci Samira de m'avoir donné l'opportunité pour prendre part à ce débat et vous dire remercier très sincèrement le studio Kalango qui matin et soir se bat pour la promotion du JAR. Donc je vous remercie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de souhaiter vraiment la paix, la tranquillité, la cohésion sociale si chère à notre pays et de prier pour nos FDS qui sont toujours au front et adresser mes condoléances à ceux qui nous ont devancés, que la terre leur soit légère. Bon, l'appréciation que je fais de ces élections, cette année, comme vous venez de le dire, au niveau du fichier, il y a eu plus de 55% de femmes qui se sont faites enrôler. Donc c'est déjà un pas de gagné, c'est une avancée significative. Ça veut dire qu'on note une certaine prise de conscience quant au rôle des femmes dans le développement socio-économique d'une commune et parlant de tout le pays. Donc les femmes se sont mobilisées en tant qu'électrices et en tant que candidates. En tout cas, cette année, il y a eu plus d'engouement par rapport aux autres élections. Donc moi, je ne fais que saluer cette participation massive des femmes. Et vraiment, je pense que nous sommes sur la droite ligne d'atteindre ce que nous voulons atteindre parce que nous parlons toujours de quotas pour la femme. Le quota, il a été effectivement rehaussé à deux reprises. En 2014, une première révision a été faite et en 2019, une seconde révision a été faite. Moi, je pense que nous ne devons pas nous cantonner sur le quota pour avoir ce qui nous revient de droit. Un droit, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Donc les femmes, moi, je les encourage, comme elles se sont massivement présentées au niveau des élections en tant que candidatrices, et elles se sont mobilisées le jour des élections et le résultat est là, on a vu. Vous prenez au Parlement, aujourd'hui, on a plus de 30% de représentation de femmes. Ça veut dire que nous avons à peu près 50 femmes au niveau du Parlement sur les 161 députés. Donc, moi, je pense que c'est une avancée significative et vraiment, je ne fais qu'encourager les femmes à emboîter le pas, à celles qui sont élues. Et celles qui ne sont pas élues, je leur souhaite une bonne chance, que ne te décourage pas, parce que toujours il faut privilégier trois valeurs. La confiance en soi, la persévérance et le courage. Et ça, ce sont les clés de réussite. Et je pense que les femmes peuvent réussir. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, vous n'êtes pas élu aujourd'hui, il se pourrait que demain, ça soit votre chance. Donc vraiment, j'encourage nos femmes à persévérer davantage. À persévérer davantage pour que vraiment, nous ne parlions plus de quota. Parce que le quota, c'est une disposition transitoire. Aujourd'hui, vous prenez au Rwanda, où dans le Parlement, il y a 64% de femmes. Qui va parler du quota? Nous aussi, le jour où la tendance sera inversée, nous n'allons plus parler de quota. Donc, je pense que les femmes sont en train de prendre conscience petit à petit. Et ça, c'est vraiment salutaire.
Puisque nous, la centralisation des données pour le pays concernant les femmes élues n'est pas encore effective, nous allons nous tenir à la ville de Niamey. Alors, sur les 5 arrondissements communaux de la ville, de combien de femmes dispose-t-on?
En tout cas, moi, je ne saurais vous répondre parce que à l'heure actuelle, je ne pourrais vous répondre sur peut-être elle qui est mairesse. Peut-être elle peut vous donner le chiffre exact. Parce que on parle de 25% de représentation au niveau du conseil de ville et 27% au niveau des conseils d'arrondissement, au niveau des arrondissements communaux. Donc le chiffre exact, peut-être qu'elle a la maîtrise du chiffre. Nous, jusqu'à présent, on est dans la recherche de la centralisation.
Alors, je vous relance la question au cas où vous auriez la réponse, Madame la mairesse.
Merci Samira, et merci aussi au studio Kalangou pour cette invitation qui m'offre l'opportunité de m'exprimer en tant qu'élue femme et maire du 4e arrondissement de Niamey. Donc, s'agissant de la place qu'occupent les femmes dans les conseils communaux et régionaux, elle est très importante parce que vous avez vu les femmes à Niamey, elles se sont battues au même titre que les hommes. Effectivement, elles ont pris conscience. Elles savent que leur place n'est plus uniquement à la maison. Elles doivent être aussi dans les instances de prise de décision. Donc, et je ne peux pas parler sans dire un mot sur le quota. Vous savez que la loi numéro 2008 du 7 juin 2000 a institué un système de quota de 10%, elle a été haussée à 15% pour les fonctions électives. Je peux dire que cette loi n'a pas été obtenue facilement, donc c'est à la suite d'une lutte menée par les femmes et ça a porté ses fruits. Donc c'est ce qui explique en tout cas une représentativité et la place qu'occupent ces femmes. Parce que le quota, vraiment, si elle est respectée à la lettre, elle va permettre une visibilité vraiment des femmes. Maintenant, pour le cas de Niamey, la question posée, c'est combien de femmes au niveau de la ville de Niamey ont été élues? Il y a 34 femmes élues dans la ville de Niamey, sur 115 au total. Donc, globalement, on peut dire que c'est 39,1%. Donc, largement, ça dépasse largement le quota. C'est là où donc j'ai dit qu'il y a vraiment une prise de conscience. On ne s'est pas contenu uniquement sur le quota. C'est vraiment bien, mais il faut que les femmes s'arment davantage pour pouvoir encore arracher ce qui leur est dû. Maintenant, en tant que mère du 4e arrondissement, pour la première fois, une femme maire a été élue démocratiquement suite aux élections. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de femme maire, mais démocratiquement, à la suite des élections, c'est la première. Et mes deux adjointes aussi sont des femmes. Je peux dire que vraiment, dans l'exécutif du 4e arrondissement, et on est à 100%. Donc, c'est un record et c'est une première. Donc, nous avons au niveau de la ville de Niamey la troisième vice-présidente qui est une femme et nous avons 6 adjointes au maire de la ville de Niamey.
Alors, on compte 45 conseillers régionaux pour le compte de la capitale Niamey. Parmi eux, quel est le nombre exact des femmes?
Sur les 45 élus de Niamey, il y a 13 femmes à la ville de Niamey sur les 45. Donc,
Madame Fatouma, selon ces chiffres, on estime que le quota est respecté, soit 25%. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes occupent la place qui leur revient au sein de ces institutions, vu leur sortie massive?
Bon, pour dire que le quota est respecté au niveau des élections, vous savez que le quota a toujours été respecté au niveau des postes électifs. Parce que pourquoi? Il y a le juge du contentieux électoral qui est là, qui fait le suivi pas à pas. Même au niveau des listes, quand vous déposez vos candidatures, quand le quota n'est pas respecté, cette liste est rejetée. Et aujourd'hui, mieux encore, la loi a prévu au niveau des conseils que le quota soit respecté par liste et non pas de manière globale. Donc c'est tout à fait normal que le quota soit respecté. Le quota est respecté. Nous sommes en train de nous battre. Et aujourd'hui, cette représentation des femmes à peu près à 34% sur 115, c'est salutaire parce qu'il n'y a jamais eu un tel recours. Donc je pense que les femmes sont en train de prendre conscience quant au rôle qui est le sien, qui est le leur plutôt. Donc vraiment, je pense qu'elles sont en train de prendre conscience et je pense qu'elles ne vont pas baisser les bras, elles vont continuer la lutte. Parce que c'est la question des femmes, la question du respect du genre. Ce n'est plus une question de droit aujourd'hui, mais c'est une exigence du moment. Donc, nous sommes obligés de prendre en compte le respect du genre. Nous sommes obligés parce que aucune nation, aucun pays ne peut avancer si une certaine catégorie des personnes sont prises en compte et qu'on délaisse une certaine catégorie. Femme, qu'elle soit handicapée, qu'elle soit quoi, en tout cas, la femme a un rôle important à jouer dans le développement socio-économique d'un pays, d'une nation. Et surtout, contexte l'oblige, on sait qu'on est dans une situation d'insécurité grandissante. Et connaissant le rôle que la femme joue, traditionnellement, même au niveau de la maison, jusqu'au niveau des prises de décision, on sait que cette paix-là ne peut être effective. La recherche de paix ne peut être effective quand on exclut une couche importante de la population, de la société. Parce que nous représentons plus de 50%. Nous et nos enfants, parce que moi je ne parle pas de femmes disséquées de l'enfant. C'est deux êtres intimement liés. Donc les jeunes représentent plus de 70%. Et nous, en tant que mères, nous représentons les femmes plus de 50%. Avec les sensibilisations et vous, les médias, ce que vous apportez comme contribution, les femmes sont en train de prendre conscience. Et je vous demanderai de persévérer, vraiment de persévérer, de continuer la sensibilisation. Et nous allons atteindre l'objectif. Parce que le changement de comportement, ce n'est pas une question d'une heure ou de deux ans. C'est une question de longue haleine. Et nous aboutirons un jour, peut-être les générations montantes. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je prends le cas de Mme Foute qui est élue mairesse au niveau de la commune 4. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Elle doit se battre. Elle doit montrer qu'elle a été élue maire, pas, par exemple, par accoutumance ou bien par quelque chose, c'est qu'elle le mérite.
Alors, je m'en vais vous poser cette question. Selon vous, sur quelle base ces femmes élues locales ont été choisies au sein de leur parti pour occuper ces places?
C'est une question qui me gêne. Parce que pourquoi elle me gêne? Je ne maîtrise pas tous les partis politiques. Ça dépend. C'est une cuisine interne. C'est une organisation interne au parti. Le parti peut désigner une femme selon les mérites. Et on a vu des gens qu'on désigne par considération, d'autres considérations à cause d'autres considérations. Donc vraiment, je ne saurais vous dire la vraie version des faits dans les partis politiques parce que je ne maîtrise pas tous les partis politiques. Je ne suis pas dans ce parti X, je ne peux pas maîtriser, je ne sais pas. Ça, c'est une organisation interne, mais je sais qu'on organise d'abord des primaires. Au niveau des primaires, si tu n'es pas élu, la base ne t'a pas élu, tu ne peux pas présenter ta candidature.
Je reviens vers vous, Madame Fouta Mariama. Dites-nous les conditions de votre élection au sein de la mairie de votre localité.
Merci, Samira. Et par rapport à mon élection, je vais vous dire que j'ai d'abord fait le premier mandat. J'étais conseillère élue par ma base. Et j'ai passé les 5 premières années. Ensuite, au deuxième mandat, encore en 2011, j'étais aussi conseillère de ville et vice-maire au niveau toujours du 4e arrondissement. Et cette fois-ci, je suis confirmée maire du 4e arrondissement. Je peux dire que c'est le degré d'engagement C'est l'engagement politique en fait que j'ai eu à faire dans mon arrondissement. Le travail, peut-être le travail bien fait. En tout cas, quand tu es élu trois fois, je peux dire que vraiment cette population a eu confiance en moi. Donc elles ont vu comment j'ai travaillé du début, donc durant ces 15 ans, bon, 10 ans, parce que le premier mandat c'était 5 ans, le deuxième 5 ans, donc pendant les 10 dernières années, en tout cas c'est le fruit, je peux dire que c'est le fruit du travail que j'ai eu à faire, qui m'a valu aussi ce poste-là, la confiance que la population a placée en moi.
Alors,
en quelque sorte.
Quel plus comptez-vous apporter pour la bonne gestion de votre entité?
Donc vraiment, je compte me battre avec mes adjointes pour vraiment qu'on dise que le 4e arrondissement est le meilleur, si je peux le dire. C'est une commune vraiment où les femmes veulent apporter un plus. C'est-à-dire qu'il y aura la transparence de la gestion, il y aura vraiment tout ce qui peut donner la visibilité à notre commune dans tous les domaines. On pense qu'on pourra réussir aussi, Inch'Allah. On va se battre corps et âme pour faire la différence.
Alors, je reviens vers vous, Madame Fatoumata. En quoi le fait qu'une femme occupe la place de mairesse ou conseillère est-il important selon vous?
Bon, vous savez, on fait d'abord la situation de la femme ou conseillère. La conseillère municipale, vous savez qu'elle est membre de droit. Elle est membre de droit du conseil municipal. Donc, à ce titre, comme tous les autres qui ont été élus, donc à ce titre, elle est membre du conseil de droit parce qu'il y a d'autres membres qui sont, par exemple, les chefs de village, les députés qui n'ont pas une voix délibérante. Donc celle-là, elle représente le genre. Elle représente le genre au sein du conseil dans lequel elle est élue. Donc, la présence de la conseillère n'est pas un fruit du hasard. Ça prouve une certaine notoriété, cette présence de la conseillère. Parce que cette conseillère, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est là au titre de la population, que ce soit ceux qui l'ont élue, ceux qui ont voté pour elle, ou bien ceux qui n'ont pas voté pour elle. Et elle est là pour défendre les intérêts de cette population. Aujourd'hui, elle a parlé de transparence, qui est un des principes sacro-saints de la bonne gouvernance. Mais est-ce que cette transparence, est-ce qu'elle est d'actualité au niveau de la gestion? Faille aller fouiller les gestions antérieures, voir si cette transparence y est, si chose. La conseillère élue, tu es là, il ne faut pas aller être complice des hommes. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des réunions de conseil? On les envoie préparer, les femmes. On leur dit que vous, votre place, c'est la cuisine. Il faut aller préparer pour les gens. Et c'est en ce moment-là que toutes les grandes décisions se prennent. Les différentes commissions sont attribuées. On sait que chez nous, nous avons un problème de foncier. Le foncier rural n'est pas accessible à la femme. Et quand tu n'es pas dans la commission foncière, qu'est-ce que tu peux défendre? C'est-à-dire la femme élue doit rester au niveau du conseil. Les réunions de conseil, même si elles se tiennent à 0h, qu'elles se tiennent à 24h sur 24, qu'elles se tiennent, elle n'a qu'à se donner corps et âme. Elle n'a qu'à s'engager pour cette population et savoir qu'elles ont obligation de redevabilité. Jamais les conseillers ne sont venus de rendre compte à leur population qui les a élus pour dire voilà ce que nous faisons comme travail. Voilà ce que, alors que c'est la loi a prévu la redevabilité, vous êtes redevable. Donc la femme, elle doit montrer la différence. Je veux qu'elle se démarque de cette habitude. Que les femmes, nos élus conseillères, qu'elles se démarquent de cette habitude. Qu'elles rendent compte à la population qui les a élues. Parce qu'elles sont là au nom de cette population. Tout le monde, la chance n'a pas été donnée à tout le monde d'aller siéger au sein du conseil. Mais vous qui avez eu la chance là, vous devez faire le travail comme ça se doit, conformément aux lois et règlements de votre code de collectivité. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Et j'interpelle les femmes conseillères pour qu'elles puissent vraiment se démarquer de ces mauvaises habitudes. Donc nous devons chaque fois aller vers cette population. Mais pas que c'est quand vous voulez quelque chose, quand les élections s'approchent en ce moment, on crée des liens de relations avec la population. Non, dès le premier jour, aller remercier cette population et demander à lui ses priorités. quels sont ses besoins. Parce que vous devez, normalement, en tant que conseillère, elle doit maîtriser tous les problèmes qui se posent à la population, à sa communauté. Elle doit les maîtriser. Et vous devez être en relation, étroite collaboration avec les chefs coutumiers. Parce que la détention coutumière, là, c'est au niveau du chef coutumier. Si la femme n'a pas la terre, si elle a la terre, elle peut être autonome du point de vue agricole. Et vous pouvez sensibiliser ces femmes-là. Les autres qui vous ont élus, vous devez les sensibiliser. Sensibilisation, toujours, on dit budget, on dit ce n'est pas prévu. Non, moi je refuse. Sensibiliser quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'un budget colossal? C'est une question de volonté, c'est une question de pragmatisme, c'est une question de rupture avec le passé. Moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà comment est-ce que la conseillère élue peut apporter une plus-value dans sa communauté. C'est ce que j'aimerais dire.
Je reviens vers vous, Madame la mairesse. Dites-moi, en quoi pensez-vous être différente des autres qui vous ont précédé?
Je vous ai parlé au départ de la bonne gouvernance et aussi, c'est-à-dire la transparence de la gestion. Et Madame Haroun l'a félicité par rapport à ça. Donc, avant de répondre à la question, je voudrais aussi, pour ne pas oublier, dire à Madame Haroun que, et au niveau de la ville, la commission foncière, elle a été arrachée par une femme. Donc, Kafdoula, nous avons une femme présente de commission à la ville de Niamey. Pour le moment, au niveau des arrondissements, les commissions ne sont pas encore installées. Donc, je vais me battre. Je vais me battre pour l'autonomisation de la femme dans mon arrondissement. Dès l'élaboration du budget, Inch'Allah, nous ferons en sorte, parce que c'est une équipe, nous avons les femmes élues, nous sommes au nombre de 8 au niveau de mon arrondissement, sur les 26, nous sommes 8. Donc nous sommes là effectivement pour le citoyen, mais nous sommes là aussi pour la femme. Nous ferons en sorte que dans l'élaboration du budget, les préoccupations de la femme soient prises en compte. Je veux dire, dans le domaine de la santé, l'éducation et la sensibilisation. J'ai des villages agricoles, l'allègement des tâches ménagères. Donc, dans le domaine de la santé, faire en sorte que toutes les femmes aient accès aux soins de santé facilement. Maintenant, dans l'éducation, faire en sorte que les jeunes filles soient scolarisées. Et ce n'est pas aussi uniquement la scolarisation, il faut leur maintien à l'école. Et quand je dis réduire un peu les tâches ménagères, je veux dire en ce moment, peut-être, la jeune fille qui aide sa maman, si elle est un peu allégée, elle pourra, et si sa maman est un peu allégée, elle pourra aller à l'école, avoir la chance de poursuivre. Et nous allons aussi nous battre en ce qui concerne les mariages forcés et précoces pour donner un peu de chance à la jeune fille de poursuivre ses études. Donc tout ça, là, ça va se faire à travers la sensibilisation. Et dans le budget aussi, nous allons prévoir, vous avez vu le cas du Pays-Bas, ce qui s'est passé. Dans une école, il y a eu un incendie et c'est des petits-enfants qui ont perdu leur vie comme ça. Faire en sorte qu'on prévoit qu'on arrive à réduire les classes payotes, les jardins d'enfants et les écoles primaires. Parce que vraiment, si chaque arrondissement, si on s'y met, on peut arriver. Donc c'est aller vers les partenaires et chercher de l'aide. Il y a l'État, il y a aussi les partenaires. Peut-être que si on semble du courage, on peut faire un peu la différence. Et on peut faire quelque chose, quoi.
Dites-moi, avez-vous rencontré des difficultés lors de votre élection?
Bon, c'est normal. Les difficultés, là, ça ne manque pas. Après les élections, parce qu'au moment des élections, là, tout le monde travaille. Et les femmes et les hommes. La mobilisation, elle est d'ailleurs plus féminine. On a vu sur le terrain, il n'y a que des femmes et la jeune fille, et les femmes et leurs enfants et la jeunesse. Maintenant, la difficulté, ça revient au partage des postes. Les hommes aussi, ils ne sont pas prêts à nous laisser ça facilement. Donc, on a lutté. On a lutté pour arracher. On ne peut pas dire qu'à Niamey, sur les 5 arrondissements, on va les laisser uniquement pour les hommes. Donc les femmes aussi se sont mobilisées, en tout cas pour avoir une commune, un arrondissement et aussi une place au niveau de la ville. Donc c'est toujours par la lutte.
Qui estimez-vous vous a le plus soutenu entre les hommes et les femmes de votre parti?
Chacun a travaillé à sa manière, mais les femmes ont plus soutenu. Parce que vous savez, les femmes là, elles soutiennent les femmes. Dans ces cas-là, on est solidaires, on est soudés. Et elles ont vraiment fait un travail et je les remercie infiniment.
Toutes vos réponses nous amènent à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé dès le départ à être candidate?
Les femmes m'ont choisi, j'ai accepté d'aller les défendre. Donc c'est normal, hein, c'est ça. C'est un choix et je voudrais vraiment être utile. Je voudrais qu'on dise que voilà ce que la mairesse... J'ai commencé par conseillère. Mon objectif, c'est d'être maire et voir ce que je peux amener, ce que je peux faire pour la population du 4e arrondissement. Donc vraiment, j'ai des ambitions et j'espère que... Je ne peux pas dire que l'objectif est atteint. Peut-être si Dieu me donne la chance et longue vie et tout pour atteindre les 5 ans, c'est en ce moment que je peux me juger. Vraiment pour voir ce que je me suis fixé comme objectif là, je l'ai atteint. Donc c'est vraiment d'aider ma population et surtout les femmes et les et la jeune fille.
Alors, sur ce, je vous propose de suivre avec moi le témoignage des femmes qu'on a rencontrées sur le sujet. On revient juste après au studio.
J'espère qu'on est toutes là parce qu'on a voulu être là. C'est pas le nombre qui importe. Moi, je suis d'accord pour le quota, pour le combat qu'on fait pour la place des femmes dans la société. Je suis très d'accord avec ça. J'espère tout simplement que mes sœurs sont là parce qu'elles savent, parce qu'elles ont décidé d'être là. Parce que le nombre est très important. Si seulement tout le monde avait un plan pour notre société, vous voyez, en tant que femme, on ne peut qu'avoir que des réflexions de femmes, que des ambitions de femmes. Pas que des problèmes de femmes, mais beaucoup de problèmes de femmes. Et toutes ces femmes réunies, on peut faire quelque chose de grand, on peut faire beaucoup dans notre société.
Les femmes qui ont été élues, c'est-à-dire les maires, les vice-maires, les conseillères, c'est notre fierté. Seule la femme peut comprendre une autre femme. Nous sommes plus à l'aise avec les femmes. Si tu as besoin de quelque chose, sans hésitation, tu vas directement voir la femme. Mais si c'est un homme, c'est difficile d'aller le voir directement. Beaucoup de femmes ont fait des choses merveilleuses pour la population, surtout pour les paysannes dans l'élevage, l'agriculture, etc. Il y a aussi les cultures de contre-saison. Là aussi, les femmes ont beaucoup fait pour les femmes du village. Beaucoup de femmes ont lutté avec les hommes. Et je suis sûre que ces femmes élues feront beaucoup de choses pour le développement du pays.
Retour au studio, je commence avec vous pour vous demander vos impressions par rapport à ce que vous venez d'écouter.
Oh, merci. Nos impressions, c'est-à-dire, c'est des témoignages que ces femmes ont fait par rapport au rôle qu'elles peuvent apporter dans leur communauté, hein, et dans la société en général. Et elles ont dit, c'est ce que nous venons de dire, que les femmes jouent un rôle important dans le développement socio-économique de leur pays. Donc une nation, comme on l'a dit, ne peut pas avancer, elle ne peut pas se développer sans l'inclusion totale des femmes. Donc on est obligé de travailler avec les femmes. C'est de manière inclusive et participative que nous pouvons combattre certains maux qui minent notre société. Et ces femmes l'ont dit, elles ont dit que si elles arrivaient à être élues, elles vont aller vraiment travailler pour leur population, les populations de leur communauté. Elles vont s'atteler au développement de leur commune. C'est pourquoi elles se sont présentées en tant que candidates. Et si en tant qu'élues, elles sont là, leur objectif, c'est le développement de leur commune. Donc, je pense que vraiment, c'est une bonne chose et c'est un bon témoignage.
Je m'en vais vous proposer de suivre avec moi le portrait de Madame Miko Hajia Nanaïchetou Amadou, qui est la mairesse de la commune 2 de Tawa, et on revient juste après.
Madame Miko Hajianana Aïchatou Amadou est âgée de 64 ans et mère de 5 enfants. Après ses études à l'école normale de Dosso, Hajianana est admise au concours d'entrée à l'ENAM niveau moyen et sort avec un certificat d'aptitude à la formation des secrétariats d'environnement où elle a servi en tant qu'agent d'administration dans plusieurs régions. C'est dans les années 90 que sa passion pour la politique l'a gagnée. Hajianana explique ce qui a motivé son engagement en politique.
À l'avènement du multipartisme, j'ai choisi de faire la politique dans le parti PNDS Tareya, dans lequel j'ai occupé plusieurs postes dans les structures du parti. Militante de base, responsable au sein de l'OFT, Organisation des femmes Tareya, au niveau de la commune, de la région et au niveau national. Je me suis présentée à deux reprises aux élections locales où j'étais élue et occupé le poste de deuxième adjointe au maire de 2005 à 2010 et de 2011 à 2021, maire pendant les 10 ans.
Hajianana fut maire du 2e arrondissement d'Etawa de 2011 à 2021. Elle nous dit pourquoi le choix du poste de l'île locale.
Donc j'ai choisi d'être élue pour rendre service à ma ville et défendre les intérêts de la population en général et particulièrement ceux des femmes. À trois reprises, nous avons gagné le prix de Challenge Foun de Caire, Niger. Tous ces montants ont été injectés dans l'épanouissement des femmes à travers les AGR, activités génératrices de revenus, et la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Durant mes deux mandats prorogés, j'étais très satisfaite de la fonction que j'ai exercée et du travail abattu.
Madame Mikonana Aïchatou Amadou dit qu'elle n'a rencontré aucun problème majeur durant son mandat d'élu local.
Vous savez, les difficultés ne manquent pas. Les difficultés, surtout des maires, c'est l'incivisme fiscal. Les gens qui ne payent pas leurs impôts, quel que soit le plan d'action ou la volonté de travailler, s'il n'y a pas de quoi travailler, vraiment, on ne le fait pas. Sinon, proprement dit, j'ai pas eu de grandes difficultés, vraiment. Alhamdulillah, tout s'est bien passé avec mon personnel, avec notre tutelle. Vraiment, tout s'est bien passé, alhamdulillah.
Les proches, les collègues et les collaborateurs de Madame Nana Aïchatou Amadou apprécient son implication et ses efforts durant son mandat.
La dame de fer, Madame Miko Nana Aïchatou, a pu gérer la commune. Elle a travaillé pour le bien-être de la population de l'arrondissement. Elle a travaillé pour la population et non pour sa propre personne. D'ailleurs même, elle est la première maire de l'arrondissement communal de Tawa. Et à propos du travail, non, elle n'a pas la distinction d'ethnie ou bien la politique. Elle a travaillé sans relâche au bonheur de la population de l'arrondissement communal.
Madame Miko Nana Aïchatou Amadou a été à la tête de plusieurs structures féminines pour la défense des droits de la femme. Aujourd'hui, bien qu'elle soit à la retraite, elle continue toujours à prodiguer des conseils aux femmes.
Madame Fatouma, je commence avec vous. Dites-nous, quels sont vos conseils et suggestions pour que la place de la femme élue localement et régionale soit encore plus meilleure et rétablie?
Ce que je dois dire, l'exemple de Madame Miko est un exemple à suivre. C'est un leadership que les femmes, les autres femmes doivent imiter. Donc elle s'est battue et elle a dit qu'elle est là. Elle a exercé pendant au moins 10 ans en toute impartialité. C'est-à-dire quand vous êtes élu maire, il faut travailler en toute impartialité et éviter la politisation de notre administration. Éviter la politisation de la commune. Si les gens veulent réussir, moi c'est le premier aspect. Et faites tout pour sensibiliser les gens. Parce que le problème de citoyenneté, jusqu'à présent, nous avons la citoyenneté responsable, c'est un problème qui nous tient à cœur. Parce que les gens ne savent pas que payer l'impôt là, c'est un devoir. Parce que tu ne peux pas aller réclamer quelque chose à la commune quand tu ne payes pas tes impôts. Il faut en tout cas se payer ses impôts pour demander. Il faut donner pour recevoir. Vous payez vos impôts, vous êtes quitte du point de vue fiscalité. Vous pouvez réclamer tout ce que vous pouvez réclamer. Parce que c'est avec ces impôts-là qu'on vous cure les caniveaux, qu'on vous fait peut-être des centres de santé, peut-être des petites choses qui peuvent développer, qui peuvent réduire certains problèmes. Par exemple, la lutte contre le paludisme. Avec si vous payez l'impôt, la mairie peut contribuer avec certains partenaires à vraiment éradiquer le problème de paludisme parce que c'est un problème de santé publique qui est prioritaire, qui pose beaucoup de problèmes avec un taux de létalité très élevé. On voit que c'est surtout les enfants de 0 à 5 ans qui sont la cible du paludisme, du neuropaludisme. Donc vraiment, je pense que cette population, en tant que chose, doit vraiment apporter sa contribution au niveau de la mairie. Il ne faut pas attendre tout de la mairie. Mm-hmm. Il faut aussi contribuer pour le développement de ta commune. Parce que la commune, quand elle se développe, ce n'est pas la mairie seulement qui bénéficie. C'est tout le monde qui bénéficie. Peut-être même nos arrières petits-fils vont aller venir trouver une population, vraiment une localité qui est développée et ça ne pose pas de problème. Donc j'attire l'attention des gens sur le leadership. Par exemple, vous venez de suivre, et vous encore les médias, s'il y a des femmes leaders qui ont réussi, par exemple, vous devez faire leur promotion, la visibilité. Peut-être que c'est une façon de conscientiser les autres femmes qui peuvent, par exemple, avoir l'engouement et dire « Ah, pourquoi Madame Fouta a réussi à tel endroit et pourquoi pas moi ?» Donc, je vais imiter Madame Fouta. Et nous, notre travail, c'est de faire le mentoring des enfants, être des mentors, vraiment être les mentors de cette génération future qui est en train de prendre la relève. Donc vraiment, il faut que nous les coachions, que nous faisons le mentoring de ces choses et que nous fassions un leadership vraiment transformationnel, pas n'importe quel leadership. Il faut que nous soyons des leaders visionnaires, collaboratifs et démocratiques et non pas d'autres formes de leadership parce que ce n'est pas tout leadership qui est bon. Il faut que nous fassions le leadership qui est vraiment le meilleur pour nous et qui puisse contribuer vraiment au développement de notre communauté et qui puisse éveiller des consciences. Parce qu'aujourd'hui, la question déjà, on sait que la conscience universelle, elle s'est vraiment ouverte à l'égalité genre, homme-femme. Donc vraiment, nous les femmes, on doit mettre l'accent surtout sur la sensibilisation et la mobilisation de nos sœurs et des populations pour combattre l'incivisme fiscal et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, il faut qu'il y ait des femmes leaders dont la promotion sera faite chaque fois, la visibilité pour attirer, pour conscientiser les autres femmes.
Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mais j'aimerais vous poser une toute dernière question. Dites-moi, Madame la mairesse, dans 5 ans, si nous devons nous retrouver sur ce même plateau, quel serait le bilan que vous souhaiteriez nous présenter?
Merci. Bon, Inch'Allah, si Dieu le veut, je voudrais qu'à la fin de mon mandat, qu'on dise que tout ce qu'il y a comme problème au niveau des voies de mon quartier, toutes les zones et tous les quartiers inaccessibles là soient accessibles. Qu'on dise que tout ce qu'il y a comme caniveau là ont été curés et que pendant la saison pluvieuse, durant mes 5 années là, et tout a été clean. Et qu'on dise aussi qu'il n'y ait plus d'inondation dans mon arrondissement, parce que ça me tient vraiment à cœur. Et que les femmes, les jeunes filles, les groupements féminins, tous sont satisfaits du travail que j'ai eu à faire. Et que j'ai eu une bonne collaboration aussi avec mes agents. Vraiment sortir la tête haute.
Alors, c'est ici que prend fin cette émission Espace Femmes, axée sur femmes et élections, place des femmes dans les conseils communaux et régionaux de Niamey. Comme vous l'avez suivi avec nous, Madame la mairesse et Madame Fatoumata de l'Observatoire nous ont donné leur avis sur comment améliorer la vie des femmes élues prochainement dans notre ville et partout au Niger. Nous étions en compagnie de Madame Fouta Mariam Tiamogo, mairesse de la commune 4 de Niamey, et aussi Madame Haroun Fatoumata, membre de l'Observatoire des élections. Ainsi prend fin cette émission. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu à travers nos 46 radios partenaires et 6 télévisions partenaires. Je suis Samira Rafi pour la modération de ce forum. Avant de nous séparer, place à notre rubrique Affairage qui informe sur tout Animour. Merci et au revoir.
Affairage, 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 affairage.
Regarde-moi toute serrature. Ces enfants vont finir par me donner une crise.
Coq, y a quelqu'un?
Oui, entrez.
Hé, hey, madame la maîtresse, bonjour, comment vas-tu?
J'irais mieux si seulement ces enfants n'étaient pas aussi distraits. Regarde ces cahiers, j'en ai vraiment assez.
Mais ma chérie, pose-toi la question d'abord. Cherche à savoir pourquoi tes élèves se comportent ainsi.
Mais c'est évident. Une fois à la maison, leurs parents ne les surveillent pas assez qu'ils fassent leurs devoirs de maison. Parce que moi, je dispense bien le programme.
C'est facile de jeter la faute sur les autres, n'est-ce pas? Bref, ce n'est pas l'objet de ma visite. Je ne suis pas ton conseiller pédagogique.
Toi, dis-moi ce qui t'amène dans ma classe.
Voilà, j'aurais appris depuis la rentrée des classes que tu envoies des élèves chez toi pour qu'elles te fassent le ménage.
Oui, mais où as-tu appris cela?
Attends, laisse-moi finir d'abord. Il paraît même que tu fais du commerce à l'école. Tu envoies tes élèves vendre des amuse-bouches aux élèves des autres classes. Cela les perturbe aussi.
Laurie, de quoi tu te mêles? Ce que je fais dans ma classe ne te regarde pas. Et puis c'est à l'heure de la récréation qu'ils me font mes petites commissions. Parfois même c'est à la sortie de l'école. Donc en quoi cela perturbe leurs études?
Tu es gonflé, hein? Et s'il leur arrive un accident sur la route, qu'est-ce que tu vas faire?
Rien ne va leur arriver, Inch'Allah. Tu sais que j'habite juste derrière l'école et le ménage ne prend même pas du temps. Tu commences vraiment à m'agacer.
Pour ton information, les textes de la Direction nationale de l'enseignement primaire a interdit à quiconque d'envoyer un enfant en dehors de la cour de l'école, même si c'est à l'heure de la récréation. C'est une faute grave, une atteinte au droit à l'éducation des enfants. C'est aussi une forme d'exploitation d'enfants.
Qu'est-ce que tu me racontes là encore? Tu veux dire que je pourrais être renvoyée?
Hé, hey, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je te dis de faire attention et faire correctement ton travail pour ne pas te créer des problèmes à l'avenir. Imagine si l'inspecteur ou le conseil pédagogique te faisait une surprise au moment où ses élèves ne sont pas en classe.
Je n'ai pas vu les choses sous cet angle. Vraiment, je voulais juste me faire un peu d'argent des poches. Les temps sont durs, tu le sais.
L'État ne te paye pas? L'État te paye. Et il le fait pour que tu donnes du savoir à ses enfants. Il est de ta responsabilité de veiller à ce qu'il ait un bon rendement scolaire, mais pas que tu sois celle qui les fera échouer.
Mais que dois-je faire maintenant?
Arrêtez tout simplement. Imagine si l'enseignante de tes enfants leur fait pareil.
Quoi? Elle n'osera même pas. Je vais la convoquer chez le directeur.
Ah, tu vois ce que ça fait, non?
J'ai vraiment compris. Je vais aussi attirer l'attention de mes collègues.
Bon, maintenant que ta petite entreprise va faire faillite, passe-moi ces biscuits, je vais amuser un peu ma bouche.
Tiens, sers-toi. Je distribuerai les restes aux enfants aussi.
En plus, c'est délicieux. Hein. C'est combien ton dernier chiffre d'affaires même?
Nya, 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 nya.
C'est juste pour savoir.